Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une enfant à longue tresse, aux yeux en amande, à la peau framboise, une petite fille née sur les bords de la Sanaga, dans l'ouest du Cameroun, des amours d'une servante camerounaise et d'un expatrié suédois, conquis par sa beauté, par l'Afrique, par ses langues et ses forêts. Une métisse dont le destin va être heurté par les soubresauts de la grande histoire du XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation, la guerre d'Espagne. Une fille qui deviendra mère et qui va connaître le choc de l'exil, de la séparation, du déracinement, les difficultés et les drames, mais aussi les retrouvailles, les bonheurs et les succès d'une nouvelle vie qui la fera s'investir pour les autres et rencontrer, voire inspirer les plus grands peintres. Brûlant était le regard de Picasso, d'Eugène Ébaudet, et paru chez Gallimard dans la collection Continent Noir, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Eugène Ébaudet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que c'est un destin assez incroyable et extraordinairement romanesque que celui de cette Mado, de son vrai nom Madeleine Petrache, que vous racontez à travers ce livre. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée, Mado, la vraie?
Je l'ai rencontrée il y a plus de 15 ans. C'était au salon littéraire de Moinsartou, à côté de Nice, où elle s'était rendue auprès de sa belle-sœur, Marion, donc la sœur de son frère, Marcel, que Mado a épousé. Et puis, elles ont vu des brochures éditées par le Salon du Livre, et puis elle s'est aperçue que j'étais parmi les invités, et comme il y avait mention de ma biographie, elle a tout de suite noté que j'étais d'origine camerounaise comme elle.
Et donc, tout la ce conversation qui touche... s'est engagée là-dessus.
Oui, tout ce qui touche au Cameroun l'émeut. Elle est arrivée avec son mari, très solaire déjà, oui. Avec un sourire ravissant. Je représentais pour elle un continent lointain, si je puis dire, mais aussi toutes les saveurs qu'elle avait reçu du Cameroun, et surtout, vous savez, un écrivain qui dit que la bouche qui a tété n'oublie pas la saveur du lait.
Absolument, et elle revient sous votre plume, hein, cette citation de Fernand Oyono, c'est ça?
Ferdinand Oyono, dans voilà,
le vieux nègre
et la médaille.
Et la médaille, c'est Mado qui spontanément vous a raconté son histoire, ou c'est vous qui avez essayé de chercher d'où elle venait?
Si vous voulez me faire dire que je l'ai torturée, non, pas du tout, elle s'est confiée de bonne grâce, oui. J'allais dire spontanément. Oui, c'est un adverbe qu'on peut retenir ici.
Oui, parce que son histoire, elle est quand même absolument incroyable. Vous l'avez un petit peu romancée, sans doute, j'imagine, ou finalement pas tant que ça, parce que vous évoquez les carnets d'Afrique qui ont été tenus par son grand-oncle. Hein.
Oui.
C'est votre source principale, en plus de son récit à elle, évidemment.
Vous voyez que vous avez à la fois indiqué que, en tout cas, vous avez cherché à savoir si j'avais romancé.
Bah oui.
Et tout de suite, vous passez par les carnets. Effectivement, c'est l'un des éléments romancés de ce livre.
Donc, il n'existe pas, ces fameux carnets.
Non. En revanche, son propre père écrivait, c'est-à-dire Yosta, a tenu des carnets qui ne m'ont été envoyés qu'à la fin, j'allais dire à la fin de mon travail, j'avais déjà rendu ma copie, j'avais lu les épreuves et je ne pouvais plus rien ajouter. On m'a apporté les carnets et je les ai chez moi. Du reste, si vous m'invitez la prochaine fois, je viendrai avec.
Eh bien, écoutez, avec plaisir. Mais est-ce que vous n'avez pas eu justement l'envie de rectifier, ne serait-ce qu'à la marge, quelques-uns des éléments de votre roman?
Non, si on a envie de rectifier, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps juste. Vous n'allez pas me faire, je dirais pas l'outrage de penser que je n'ai pas eu un temps juste.
Oh non.
Ah bon,
non.
Vous me rassurez.
Loin de moi cette idée-là, Eugène Ébaudet.
Vous me rassurez. Non, je pense qu'il y a à la fois des témoignages, c'est un récit référentiel, le sien. Le mien mélange effectivement fiction et biographie. Nous parlons là de mémoire d'un temps qui n'est pas si lointain. Donc j'ai essayé d'être à la fois mémorialiste, mais aussi écrivain, c'est-à-dire romancier, c'est-à-dire celui qui, lorsque l'histoire présente des flous ou des trous, essaye d'y jeter un brin de lumière.
Alors ces fameux carnets d'Afrique dans le roman sont donc ceux du grand-oncle hein, de Mado, Mathias Sylvander, un forestier venu s'établir au Cameroun. C'est un personnage assez discret, puisqu'il est assez taiseux, hein, Mathias. C'est un peu le patriarche de l'histoire, mais c'est un personnage fondamental parce que c'est lui qui va initier le père de Mado, qui s'appelle donc Yosta, comme vous l'avez dit, qui va l'initier au monde du bois et de la forêt, qui va l'initier à l'Afrique, qui va lui transmettre justement ce goût de l'Afrique qu'on évoquait à l'instant et qu'on n'oublie jamais une fois qu'on y a posé le pied. Il va aussi lui transmettre le goût de l'observation de la nature et le goût de la lecture. Donc c'est l'œil dans l'observation de la nature et dans la lecture, c'est l'œil qui agit. Est-ce que l'œil, c'est un sens majeur? Est-ce que la vue, c'est un sens majeur pour l'écrivain que vous êtes, Eugène Ebaudet?
Vous avez raison, l'œil est majeur. Et puis, on peut même dire, sans tirer la métaphore très loin, qu'il s'agit à la fois de l'œil physique et de l'œil intérieur. Voyez-vous, avec Mathias, cet oncle qui accueille effectivement, qui a existé, qui accueille Yosta, il l'initie effectivement à l'observation. Il l'invite à observer.
Il l'apprend à voir, parce que c'est pas naturel de voir en réalité.
Il apprend cette chose fondamentale qui est de regarder et de s'instruire, de considérer que on est presque nu et que c'est le regard, ce que nous voyons, qui nous habille, qui nous remplit d'émotions, qui nous donne des indications très précises sur les choses. Elles ne sont jamais semblables. Elles sont jamais semblables et il faut donc essayer de distinguer, non pas pour ensuite exagérer ou exaspérer l'autre par l'évocation des différences, mais c'est pour précisément prendre acte de la diversité, de la beauté du monde. Le monde n'est pas beau en tout instant et on voit bien qu'un petit satané virus nous empoisonne l'existence. Et on ne peut pas dire que nous soyons tellement heureux sous son gouvernement, ou sous tout gouvernement d'ailleurs, qui n'arrive pas à le restreindre. Mais je pense que Yosta, qui observe, c'est aussi parce qu'il est jeune. Il est presque innocent. Et il est à remplir. Il a 18 ans.
Il est curieux, il est avide de découvertes et d'expériences.
Et puis il a 18 ans quand il arrive en 1929, dans une période déjà tourmentée. Il y a la grande cassure économique du 20e siècle qui se produit. Et donc il est en alerte. Physiquement aussi, il souffre d'un mal des yeux qui a empêché à ce jeune homme de suivre les études de médecin auxquelles il se destinait, pour reprendre un peu la voie de son père. Et l'invitation en Afrique lui permet à la fois de quitter le registre des ressentiments et de découvrir une culture ou plusieurs cultures, de découvrir des paysages absolument fabuleux. Et ces paysages font en sorte que son oncle va quitter d'ailleurs la compagnie des hommes pour lui préférer celle de cette nature qui est tellement une autre esquisse de l'engouement, de la capacité à dialoguer, y compris avec les oiseaux et le monde animal, qui lui montre que le monde est à la fois mystérieux, stupéfiant, et très intéressant si on veut être à l'écoute de sa diversité.
Sur l'étendue sablonneuse de Rivière Rouge, traînaient des coquillages et des noix de coco. Il surgissait aussi du bois environnant des animaux farceurs. Les singes...
Maman ben allez manou. Pourquoi les manou, maman? Mama ye melibunga la tome poro Benga kwam sol me Benga ki manun me Bo benga kwam sol boat Bo benga kwam bonyo Yige la bora man Yo la bora be akon Borba nun kwe Wombi nun rawmi Benga jama loga mungon mke mwumi jela loga Ni baso loga nami yigi la bora mani Masong baso gobe
do le ma nyoma nu bi bo ma balwe lo lo no denga ma song we solo fis ma belwe den don denga gwe bu we bombu ma song we to lambol denga ma mangwe boto ala wela
Jean Bicoco, alias Aladdin, le pape de Lassico, ça vous rappelle forcément des souvenirs.
Bien sûr, je suis ému. Et puis, on parlait de la diversité africaine. Il se trouve que Jean Bicoco, en l'écoutant, me renvoie aussi au pays berbère. J'ai une fréquentation du Maroc qui m'a montré comment la multiplicité des cultures ne veut pas dire opposition. En écoutant Bicoco, j'ai vraiment le sentiment d'être un pays berbère, où on danse d'ailleurs presque de la même façon. Il y a un mouvement des pas qui est presque semblable, sauf les mouvements du bassin qui sont plus appuyés au Cameroun qu'en pays berbère, qu'au Maroc, où là, ce sont les épaules qui jouent et qui miment une manière d'être, où le corps est un spectacle à soi tout seul.
Et dans ce roman brûlant était le regard de Picasso que vous publiez chez Gallimard, Jean Bicoco est un chanteur très écouté à Edea. Edea, c'est dans l'ouest du Cameroun.
C'est le sud.
C'est le sud, sud-ouest.
Oui, bien sûr.
Voilà, où se situe la première partie de votre récit. Hein. C'est la ville natale de Mado. Mm-hmm. Edea, ville clé pour l'électricité hydroélectrique.
Le barrage hydroélectrique l'un des plus importants, sinon le plus important du Cameroun et de l'Afrique centrale.
Voilà, donc ville flambeau, comme vous l'écrivez dans le roman.
Et flamboyante.
Voilà, et on passe de Rivière Rouge à Rivière Blanche.
Eh bien, c'est parce que la terre de Latérite, voyez-vous, qui borde les rivages et le sol de cette région du pays, fait en sorte que l'écoulement des eaux, lorsque la Latérite se déverse dans le fleuve, eh bien, il est rougi par la Latérite. Alors que à sa source au nord, où on l'appelle le Djerem, rivière blanche donc, eh bien les eaux y sont effectivement blanches. Parce que la terre n'y est pas latéritique.
Nous sommes à la page 31 du roman.
Sur l'étendue sablonneuse de Rivière Rouge, traînaient des coquillages et des noix de coco. Il surgissait aussi du bois environnant des animaux farceurs. Les singes, jamais avares de cabrioles et de poses théâtrales, les écureuils à la tête en forme de toupie qui se montraient puis disparaissaient. Mado a gardé en mémoire le retour des pêcheurs, debout et fiers sur leurs pirogues contenant des filets remplis de poissons attrapés aux aurores. Ces pêcheurs à la rame étaient majestueux, torse nu, les biceps volumineux, un pantalon serré par une ficelle autour de la taille, les jambes retroussées au-dessus de mollets saillants et poilus. La berge était bondée de clients qui guettaient avec impatience le retour de ces fils de l'eau. À peine accostaient-ils que les gens agglutinés près de la mangrove se ruaient vers leurs pirogues.
Et c'est donc là, Edea, que le père de Mado, Josta, suédois d'origine, on le rappelle, débarque donc en 1929 à l'âge de 18 ans. Alors il a appris le français et quelques autres langues avant de venir. Hein, et sa première compagne, Salomé, va lui apprendre quelques notions de douala. Mm-hmm. Et il aime ça, il apprécie la musicalité de la langue. Mm-hmm. C'est vraiment un esprit curieux. Hein, à s'investir à fond, on l'a dit, dans la découverte du Cameroun. Il va rencontrer des Camerounais. Mm-hmm. Il va rencontrer aussi quelques expatriés français, comme les Domergue et les Boissons. Alors, je voudrais qu'on dise un tout petit mot des Domergue, jeunes et baudets, et notamment du père Domergue, surnommé Dodu. C'est pas un personnage majeur, même si il va permettre à l'action de progresser, oui. Mais il est très intéressant, ce personnage. Comment l'avez-vous appréhendé, ce Dodu ?
Eh bien, j'ai eu une galerie de quelques portraits, et parmi ceux que j'ai dû peindre par mon imagination, en empruntant un peu quelques caractéristiques à ceux que Mado a bien voulu me confier. Donc j'ai composé un personnage un peu atypique, un peu détonnant, au verbe « haut », lui-même est haut et coloré. Et Dodu, comme son nom l'indique, est aussi à des rondeurs sympathiques. Oui. Et il les expose, il les fait même teinter, probablement qu'il aurait pu jouer dans un orchestre de Jean Bicoco,
oui.
qu'il n'aurait pas dénoté de celui-ci. Il est aussi celui qui introduit Josta, le jeune Josta, dans la société des expatriés, et qui est un peu son mentor. Mais un mentor qui amuse plus qu'il n'est un exemple à suivre.
Ouais, et c'est là, effectivement, dans cette société des expatriés, que Josta va rencontrer Monica, la future mère de Mado, qui fait le service à table. Et Monica va mettre Mado au monde, son père va reconnaître l'enfant, mais le couple ne va pas se marier. Les préventions viennent des deux côtés, Eugène Baudet.
Oui, on n'est jamais totalement indemne ou totalement pur. C'est un peu le message que je voulais adresser au lecteur, mais il aura bien compris. Il n'y a pas de société qui soit juste par essence ou inégalitaire foncièrement ou moins suspicieuse que d'autres lorsqu'il s'agit d'un rapport avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et une sorte d'imagerie populaire voudrait que l'Afrique ne soit baignée que de bons sentiments, arrosée de l'ouverture sans contrôle à l'autre. Elle a aussi ses mécanismes de méfiance, voire de défiance. On peut regretter qu'il ne soit pas assez mis en œuvre aujourd'hui et que certaines perspectives, telles que celle du panafricanisme, qui est aussi discutée dans le livre, n'aient pas été suffisamment explorées pour que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. L'une de ces voix, c'est par exemple le domaine culturel, et qu'elle ait été assez diplomate en elle-même pour fédérer les atouts qu'elle a reçus de son héritage et de la nature. Et autour de ces questions-là, j'ai voulu montrer comment le rapport avec l'autre n'est pas un rapport aussi idyllique ou qui devrait être. Il faut faire des accommodements avec l'autre. Il faut faire des transactions, si je puis dire, quand elles sont des transactions honnêtes. Je dis pas qu'il faille tout soumettre à la discussion. Mais ici, je voulais donc montrer, et ce n'est pas seulement moi, mais c'est ce qui est bien arrivé à Josta. La famille de Mado, de Monica Yaya, si vous voulez, ne l'a pas accepté d'emblée. Il y a eu des discussions qui n'ont pas abouti. Et puis, il y a un événement qui est venu rompre, si je puis dire, le fil des transactions ou des causeries. C'est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale.
En 1939, oui. Voilà, alors on va pas tout raconter, mais la guerre fait que, en plein milieu du conflit mondial, la petite fille, Mado, va quitter le Cameroun et elle va finir, alors il y a plusieurs étapes, hein, mais enfin, elle va finir par s'installer donc dans le sud de la France, pas très loin de la frontière espagnole, du côté de Perpignan. Mmh. Alors là, évidemment, l'exil est très dur. D'abord, tout exil est dur. C'est un déracinement.
Oui, vous êtes allé un peu vite, mais je comprends.
Parce on ne va pas tout raconter, parce qu'il y a plein de péripéties, il y a plein de rebondissements, il y a plein de surprises, et chacun s'adapte à la fois à son propre parcours et aux événements extérieurs qui viennent assaillir sa vie.
Oui, donc à Séré, lorsqu'elle arrive à Séré, la guerre est finie. Elle est finie dans le monde, mais elle démarre petitement en Afrique. Parce que il y a des contentieux, il y a des exactions, il y a une colonisation qui a trop duré et on voit au lendemain, même le 8 mai 45, des coups de feu pour saluer la fin de la guerre et d'autres pour démarrer un combat. Mais à Séré, c'est l'exil. Elle est loin des rivières rouges et blanches. Elle est loin de ce sable très particulier dont elle avait le contact habituel sur les bords de la Sanaga, avec lequel elle jouait. Et le sable est un peu ici, vous voyez, la mesure du temps. Et elle le laissait filer entre ses doigts, peut-être en attendant que son père revienne. Elle n'a plus ce contact. Elle va bien sûr à Collioure, il y a la Méditerranée qui est pas loin de Perpignan. Mais elle n'a pas la même saveur, si je puis dire, ou les mêmes couleurs, les mêmes éléments que sa Sanaga de son enfance. Donc elle vit mal le déracinement. Celui-ci est d'autant plus malaisé que elle n'a pas de nouvelles de son père et elle apprendra que sa mère n'est plus. ce qui sera un gros mensonge.
Oui, voilà, parce qu'il y a des parents adoptifs qui vont tout faire pour l'éloigner, hein, en réalité, de ses parents. Et pourtant, avec tous ces handicaps, en quelque sorte, Jeannet Baudet, eh bien, Mado va réussir. Elle va réussir à se marier, elle va réussir à s'intégrer, elle va même être élue à la mairie, elle va s'occuper d'un musée.
Oui,
le musée de Stéré, qui expose les peintres qui ont fait dans la région un séjour plus ou moins long. Et il y en a pléthore. Hein. C'est un endroit qui a attiré énormément d'artistes picturaux.
Énormément, depuis un peu avant la Première Guerre mondiale, autour des années 1910. Soutine y est arrivé, y a laissé des tableaux fantastiques. D.A. Vilande y a été aussi. Il y a eu Matisse, Picasso, bien sûr, et beaucoup de peintres qui ont choisi cette petite ville frontalière de l'Espagne. Parce que elle avait un charme particulier, elle a toujours.
Il y a le charme et puis il y a la lumière.
Il y a la lumière
particulière.
Il y a aussi les cerisiers et la cerise, ce fruit rouge est pendant longtemps l'emblème. Et on voit que progressivement, ce sont les créations de l'esprit qui remplacent la création de la nature. Qui bon, ne la substitue pas totalement. La cerise est toujours là au mois de mai, et bientôt, j'espère qu'on ira la déguster.
Acceptons-en l'augure.
C'est un appel au Cerétan. Et je sais aussi que tous ces peintres et musiciens, parce qu'il y avait Sévérac de Deoda qui y a été aussi, eh bien, tous ces artistes allaient témoigner que dans des lieux que l'on pense parfois un peu perdus ou trop reculés, l'esprit peut y apporter une nouvelle coloration, un nouveau désir qu'on n'attendait pas. Et ce désir qu'on n'attendait pas, c'est celui que les artistes qui ont séjourné à Céret vont lui apporter.
Et c'est vrai que le désir est très présent aussi dans vos pages et dans votre roman, Jeannet Baudet. Mado croise Picasso, alors une fois furtivement dans la rue, la seconde fois un peu plus longuement. C'est elle d'ailleurs qui attire son regard alors qu'elle danse la sardane pendant la traditionnelle fête de la cerise, vous voyez, on l'évoquait il y a un instant.
Oui.
Nous sommes à la page 165 du roman.
Il darda son regard d'un noir de jet sur Mado qui fut marquée par son incandescence et en garde un souvenir impérissable. Elle répète souvent en parlant de cet instant. Brûlant était le regard de Picasso. La métisse aux longues jambes et au corps sculpté qui se mouvait dans le cercle de la sardane ressentit une vive chaleur dans le dos. Elle se troubla, faillit trébucher, se rappela un proverbe bamiléké. À trop applaudir un danseur, il risque de se tromper de pas. Elle oublia donc les brûlures et les applaudissements admiratifs et continua à mener son merveilleux ballet, sans se retourner vers le peintre. Que lui évoquait sa brillante exécution des notes enjouées que délivraient les musiciens ? « La souplesse d'une licorne au trot », souffla-t-il à Jaime. Jaime acquiesça, ajoutant qu'on devinait, sous la délicatesse des membres soyeux de la métisse, toute sa puissance athlétique si admirablement retenue. Et derrière sa gestuelle contenue, dormaient des galops effrénés. « Jaime, ma muleta, seigneur irrésistible !» Vos volontés sont des ordres, mais le mari, chut. Marcel dansait aussi très bien. Il savait se hisser à la hauteur de sa femme. Les gestes de la danseuse, son buste haut, son éclat, son sourire, ses pas ajustés guidaient la ronde. C'est elle que l'on fixait, c'est elle qui illuminait la scène. Ses pieds effleurant à peine le sol et ses mains, s'élevant au-dessus de sa tête ou se baissant, avait la légèreté, l'insolence et la grâce des danseuses étoiles du Bolchoï. Mado voltigeait, la danse était pour elle un exercice de lévitation au-dessus des plates réalités. Elle ne soulevait pas la poussière, elle lui marchait sur l'eau. Et sur cette piste poussiéreuse, le peintre voyait la plante des pieds de la danseuse caresser le sol sur lequel la ronde tournoyait. Mais qu'elle seule semblait dominer de toute la puissance d'une fée, faite pour les nuées, pour les sommets et non pour l'anonymat. Au cœur de la ronde, elle figurait une colombe qui étirait ses ailes au-dessus de la mêlée et volait en liberté. « Le peintre le souffla-t-il ce dimanche-là à l'oreille de son apoderado qui hochait la tête ?» La métisse donnait des envies de chevalier.
Et cette scène-là, à ce moment-là, c'est assez extraordinaire, mais c'est ainsi Picasso l'a dessiné. René Baudet, le tableau s'appelle La Sardane de la Paix. On peut l'admirer au musée d'art moderne de la ville de Céré, donc le musée pour lequel a travaillé Madoz. Est-ce que c'est ce tableau qui vous a inspiré cette scène ?
En réalité, Picasso avait peint ce tableau l'année d'avant. Mais Madoz représentait probablement excellemment ce qu'il avait conçu dans son esprit avant même la rencontre. Voyez-vous, les artistes savent devancer l'événement. Et c'est ce qu'il a fait. On sait qu'il avait du génie, mais qu'il avait aussi quelques défauts et des gros. Je le dis aussi sans appuyer le trait, si je puis dire. J'en fais quelques petites esquisses pas picaresques, mais picassiennes.
Oui, picassiennes, effectivement. Mais alors, justement, pourquoi René Baudet, est-ce que vous avez placé ce livre sous le regard de Picasso, pour reprendre une partie de votre titre, parce qu'il est tellement riche, votre roman? Pourquoi est-ce que c'est Picasso qui prend le lecteur par la main et l'incite à ouvrir le livre?
Ce n'est point par frivolité, mais je pense que Picasso était un exilé aussi, et on parle là d'exil, nous l'avons évoqué tout à l'heure, et le passage qui vient d'être excellemment lu nous rappelle que pour se guérir des maux de l'exil, parce qu'ils sont nombreux, eh bien, les mots M-A-U-X, parce que les mots M-O-T, on a vu que maintenant, les exilés, on les appelle migrants. Ça change. Mais ça ne couvre pas, ou ça n'enlève pas la dureté des situations que vivent les exilés. Et qu'est-ce qui a pu sauver Madoz? On voit que c'est l'art. C'est à la fois la danse, mais c'est aussi la peinture. C'est pour cela que, à votre question, je dirais que Picasso, qui a excellé dans la peinture et donc dans l'art, est ici un peu, j'ose la métaphore, une piqûre de rappel pour des temps d'extrêmement morosité et d'extrême crise. Nous en sommes, ce que j'appelle les temps de rouille. Et ces temps de rouille, c'est la culture qui peut nous sauver. Et j'ai le sentiment que, dans la période où nous vivons, ce qui insupporte le plus le citoyen, c'est probablement que l'art a été dégringolé de son piédestal. Ça n'était plus une nourriture essentielle ou un élément essentiel de nos vies. Dans un premier mouvement, on a considéré qu'on pouvait fermer et les cinémas, les bibliothèques, les musées, etc. Et vous avez vu combien nous sommes sentis amoindris, rabougris, estropiés, handicapés, divisés. Au fond, notre unité n'était plus si on lui ôtait la perspective de l'art. Donc le titre qu'il passe par Picasso montre aussi combien l'art a une valeur hautement forte dans nos sociétés. Et vous savez que cet art, s'il y a une couleur qui manque peut-être ici, c'est la couleur jaune. Vous savez que Van Gogh parlait de la haute couleur jaune, celle qui nous guérit précisément et qui nous transporte dans des univers au-delà de la morosité, de la tristesse, du ressentiment et des angoisses. Et il y en a beaucoup en ce moment. Du coup, lire Brûlant était le regard de Picasso nous sort de l'angoisse.
Voilà, vous parliez du jaune, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le noir, Jeanne et Baudet, parce que Picasso va aussi dessiner l'affiche du premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956. On en a souvent, à de multiples reprises, parlé dans cette émission, rencontre organisée par Alioune Diop, le fondateur de la librairie et de la revue Présence Africaine. Vous y consacrez là aussi quelques pages. Madoz y assiste, on peut pas dire qu'elle soit vraiment emballée, elle parle même d'une occasion manquée. Vous partagez ce diagnostic?
Je le partage parce que ce grand rassemblement, il servait à quoi? À montrer une forme d'unité de combat. Le combat contre le racisme, bien entendu, le combat contre ceux qui estimaient que le monde noir n'avait rien créé, rien inventé, et vivait dans les sous-sols de l'humanité. Au fond, on s'était interrogé s'il avait une âme comme les Indiens. Et puis débarquent ces écrivains sous la houlette de d'Alioune Diop à la Sorbonne, effectivement, en septembre 56. Et Mado y assiste et elle espère guérir de quelques mots qu'on a déjà cités. Les divisions, le grand froid qui s'est abattu sur les peuples et qui s'est appelé la colonisation après l'esclavage et après d'autres grandes misères. Eh bien, la discussion des intellectuels, c'est ce qui est intéressant. Elle a l'impression que ce sont de brillants, ils sont brillants, ces esprits qui sont rassemblés, mais qu'au fond, ce ne sont que des solistes, parce qu'ils ne font pas, corps. L'orchestre ne joue pas ensemble. Et voilà d'où vient sa déception, parce qu'elle rêvait que ces grands intellectuels rassemblés allaient dégager une perspective commune. Nous en sommes encore à la chercher. Et cette perspective commune, elle passe aussi, si vous suivez mon regard, elle passe par l'art. Elle passe non pas par cette forme de diversité qu'on encense quand on parle du continent africain, mais cette diversité est une richesse. Il faut maintenant pouvoir mettre en musique cette diversité culturelle pour trouver peut-être une ligne de cette unité recherchée non seulement à la Sorbonne, mais à Bandung, par les pays du tiers-monde un an avant, et que cette unité avait été absente des résultats finaux.
Mais cette unité, cette harmonie musicale, pour reprendre la métaphore de l'orchestre que vous utilisiez à l'instant, Jeanne Baudet, qui devrait la mettre en musique? Qui devrait la diriger? Quel serait le chef d'orchestre?
Le chef d'orchestre, c'est ceux qui amènent l'idée qui unit. Je ne vous dis pas que vous l'avez en face de vous, mais je me souviens qu'avec Tierno Monenembo, Véronique Tadjo, et beaucoup d'autres, Boualem Sansal, Kebir Mustapha Ami du Maroc, vous voyez la diversité africaine, et même Djibril Tamsir Nian, qui nous a quittés et qui a beaucoup fait pour montrer que l'Afrique avait une ancienne culture, ne serait-ce que par les empires de Sundiata Keita, qui n'étaient pas réduits aux morceaux du Mali, qui est déjà assez grand aujourd'hui, mais qui débordait des frontières issues de la colonisation. Et que sous ces empires, il y avait des lignes directrices. Il y a même eu, dans le royaume du Mandé, une charte en 1222, qui était une charte à valeur constitutionnelle, qui fixait un certain nombre de droits et devoirs. Il faut retrouver ces lignes de force pour montrer que l'unité n'est pas qu'une simple invocation et pour cabris qui sauteraient sur leur chaise. Non, l'unité est une nécessité pour qu'il y ait un sens à un continent qui regorge de richesses, mais qui est encore, du point de vue de la distribution de celles-ci, à la remorque. Ça veut peut-être dire que lorsqu'avec Tierno et Monenembo et Véronique Tadjo, nous avions lancé cet appel, c'était pour que l'Afrique sorte à la fois de ces bousculades institutionnelles qui sont qui retardent la constitution d'états de droit, et puis qu'il y a de nouveaux leaders. Alors les leaders peuvent aussi passer non seulement par les politiques, peut-être par les artistes, et pourquoi pas demain par des paysans qui en auraient marre de l'inefficacité des élites. Elles n'ont pas un statut uniquement pour prospérer pour eux-mêmes, si le continent n'en tire aucun bénéfice.
Le saxophone du regretté Manu Dibango qui nous a quitté il y a tout petit peu plus d'un an, Eugène Ebaudet, des suites de la Covid-19. Quel souvenir gardez-vous de lui ?
L'homme saxophone, jamais loin de son instrument. Mboasu, c'est un titre qui me parle puisqu'il évoque la maison commune, notre continent. Et en parlant du continent, et justement, il dit qu'il veut se mettre en route, qu'il attend l'appel. C'est un peu ce que nous faisons et ce qu'il a fait toute sa vie pour célébrer la magie, la majesté de ce continent, ses sons, ses rythmes. Il les a épousés. Il a toujours été celui qui avait un ventre énorme, métaphoriquement, mais qui était aussi long et effilé qu'une liane. Et son ventre énorme lui permettait de pouvoir digérer toutes les musiques africaines. Je crois qu'il les a toutes faites. Et j'ai osé une comparaison dans un livre dans Silicani, où j'évoquais, je faisais un hommage aux musiciens d'Afrique, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et je disais que précisément entre lui et Fela, un autre maître du saxophone, ce qui les différenciait, c'est que effectivement Manu s'était mis à la disposition de la somme des musiques, totale des musiques. Et Fela, lui, avait construit une unité, une singularité musicale. Et Manu représentait la pluralité. Et on voit, c'est un continent qui est à la fois singulier et multiple.
Et vous parlez de la mort de Manu Dibango dans le roman. Vous évoquez justement l'actualité de ces tout derniers mois, la pandémie de coronavirus. Et moi, ça m'a un petit peu étonné, Jeanne Ebaudet. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité à ce point, parce que c'est pas une allusion, hein, c'est vraiment des lignes nombreuses, hein, plusieurs pages. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité à ce point ancrer votre roman, ancrer le roman de Mado dans le contemporain immédiat ?
Eh bien, parce qu'il y a deux temporalités dans ce livre. Il y a la temporalité de Yosta. Yosta, il décède en 1978.
Donc le père de Mado.
Le père de Mado, oui. Et puis, il y a la temporalité de Mado. Mado vit encore à Perpignan. Je la salue si elle nous écoute. Et Mado a traversé avec son mari, Marcel, douloureusement, comme la plupart d'entre nous, l'épisode Covid. Vous voyez qu'on n'est pas sorti. Et j'essayais aussi d'être un peu un enfant de la grande histoire, voire même le mémorialiste des temps présents à la Saint-Simon, enfin ouais. Modestement.
Et, hein. Avec des mots extrêmement critiques, hein, sur la gestion de la crise sanitaire, notamment en France, hein, et notamment envers le président Macron, dont vous dites, alors le livre a été écrit il y a de longs mois, hein,
oui,
évidemment, dont vous dites qu'il dictonne.
Oui, il dictonne parce que le quoi qu'il n'en coûte ressemblait, sonnait, et il y avait eu quelques envolées lyriques au début, si vous vous souvenez. Et on lui demandait de reconnaître et de dire juste le mot confinement. On a oublié que ça a été un mot extrêmement pénible à être prononcé par le chef de l'État. Je sais qu'il a beaucoup de tâches, beaucoup de charges. Cependant, je n'étais pas là pour simplement lui faire plaisir. J'ai essayé de présenter un miroir de ce qui se passait et probablement de ce qu'on aurait pu avoir aussi. Et figurez-vous que sur la pandémie Covid, moi j'ignorais que j'aurais une interpellation africaine. Parce que il y a le Maroc qui, si on fait une espèce de regard, si on pose un regard comparatiste sur la manière dont les États se sont comportés, on donnerait une note excellente au Maroc et pas du tout à la France. Et notamment ce n'est pas par chauvinisme que je le ferais, hein, connaissant tout ce que je peux penser de bien de l'Afrique, lorsqu'elle peut justement montrer qu'elle a la, elle est à la hauteur. On la dépeint souvent à l'arrière, mais vous avez vu l'épisode des masques, les Marocains en ont produit, vendu à l'extérieur, pendant que la France peinait à rassembler quelques masques. On nous a même expliqué que nous ne savions pas les porter. Vous vous souvenez de cet épisode?
Absolument, oui.
Après, on nous a dit, bah, les enseignants, j'en suis un. On nous a conviés à aller à la pêche ou à aller ramasser des fraises, comme si nous tournions les pouces à l'école. Ça a été vécu tout de même comme étant des injonctions assez contradictoires, voire infantilisantes par le pouvoir.
Vous faites aussi allusion, Eugène Ebaudet, à l'élection de Louis Alliot du Rassemblement National à la mairie de Perpignan. Et vous le faites à travers une inquiétude notamment pour la culture.
Oui.
C'est une inquiétude que vous partagez aujourd'hui, cette fois-ci concernant non pas Perpignan, mais l'ensemble de la nation française.
Mais bien sûr, puisque je viens de vous dire que la culture, elle sauve, elle soigne, elle nous fait dépasser les lignes d'horizon, elle nous fait traverser les frontières, laissons traverser les frontières. Et vous parlez donc de Perpignan, il se trouve que je suis déjà allé, je crois, deux fois à Perpignan. Eh bien, c'est un livre qui se passe tout de même dans cette ancienne cité des princes de Majorque. Il se trouve que l'administration communale ne m'a pas reçu et n'a rien fait pour aller voir Mado. Elle vit à Perpignan. Elle a rencontré des artistes et pas des moines. Elle-même peint. Et il se trouve que c'est la Suisse qui m'invite par une école d'art, qui s'appelle d'ailleurs Idea. C'est une coïncidence. Qui m'invite à aller faire une conférence à Genève et qui sera, je crois, la première à exposer les œuvres de Mado. Sa commune ne fait rien. Voilà. Et comment voulez-vous que la culture soit partagée s'il y a une administration qui tourne le dos à un trésor qu'elle a dans ses mains, si je puis dire?
Merci beaucoup, Eugène Ebaudet. Brûlant était le regard de Picasso chez Gallimard, un livre que vous allez pouvoir gagner, vous qui nous écoutez, en répondant à la question du jour sur la page Facebook de l'émission. Comment s'appelle la ville du Cameroun où Mado est né? Et bonjour à vous, Alain Pilot.
Eh bien, bonjour à vous, Jean-François Cadet et Idib Abouhamé à Eugène Ebaudet.
Avec ici la participation de Sarah El-Raoui Koshimoun. Qui se cache derrière ce nom, Alain?
Axel Moon et Nico Shin, Jean-François, qui nous font découvrir leur nouveau mini-album miniature 1, 4 titres, le premier d'une série de 4 qui explore différents territoires musicaux, du Maghreb à l'Inde, et reconfigure les frontières non pas visuelles mais sonores que nous connaissons. Les 4 morceaux sont un dialogue avec les traditions de l'Égypte et du Levant, mais pas du pays berbère, cette fois, écrit en collaboration avec des artisanes et des artisans de ce patrimoine vivant. Mais pourquoi un format si court, Axel?
Les morceaux n'étaient pas toujours vraiment écoutés. Donc on s'est dit, le format peut-être court en EP, ça peut privilégier l'écoute. Et ensuite, ça nous permettait aussi enfin de pouvoir se déplacer comme ça dans des régions musicales qui nous inspirent sur un format un peu court et de pouvoir comme ça passer d'une région, d'un style ou d'une ère musicale à une autre, un peu plus rapidement, disons.
Axel Moon de Koshin Moon, parmi les invités de ce disque également, Mouna Awa.
L'incroyable Mouna Awa, je cite notre binôme, chanteuse mais principalement une actrice palestinienne qui fait du théâtre et du cinéma, rencontrée au cours d'une tournée dans la région en 2018. Elle leur a été présentée par l'entremise de Marwan Awash, alors propriétaire du club mythique Anna Loulou à Jaffa. Mouna Awa est donc au générique d'une des 4 compositions de ce premier volet.
Ce morceau, on l'a choisi ensemble avec Mouna. C'est un morceau qui est chanté traditionnellement en territoire palestinien pour les mariages. L'idée, c'était d'avoir un morceau trad qu'on puisse aussi, nous, travailler pour le remanier à notre manière, avec notre arrangement, nos arrangements, etc., notre approche. Sans avoir connaissance, forcément, de la musique telle qu'elle est jouée traditionnellement, sur ce morceau-là, en tout cas. Du coup, pour les textes, on a décidé avec Mouna de remanier un petit peu. En fait, c'est des couplets qui, à chaque fois, sont modifiés en contexte. Voilà, on ajoute des mots, on change un peu des parties pour s'adresser à une personne en particulier. C'est des musiques et des textes qui se remanient de manière traditionnelle. Et du coup, l'idée, c'était de nous aussi le remanier. Alors, c'est elle qui a composé le deuxième couplet. Et l'idée, c'était d'avoir une approche de son point de vue à elle et de dire que dans le cadre du mariage, que aussi le marié doit laisser la liberté à la mariée. Voilà, il y avait ce message un peu d'émancipation, quoi. Elle voulait ajouter cette partie-là.
Olu Laemou de Cochin Moon, tiré du disque Miniature 1, Alain.
Sur leurs deux premiers albums, Cochin Moon ont beaucoup travaillé avec des samples, mais aussi un baglama électrique, un tambour afghan doublé d'un rubab afghan et un suling indonésien, mais pas à la manière indonésienne. Ils s'étaient également servis d'un sitar et utilisé du oud électrique et des percussions également. Qu'en a-t-il été ici, Axel ?
On a encore utilisé une variété d'instruments qu'on a au studio. On a beaucoup utilisé un instrument qui s'appelle le bouzouk, qu'on retrouve aussi en Grèce. Mais ça, pour le coup, c'est le bouzouk arabe, qui est vraiment typique du Levant, principalement Liban, Syrie, Jordanie et Palestine. Du coup, c'est un instrument qui est acoustique, qui a la particularité du coup d'avoir des quarts de ton, contrairement au bouzouk grec. Et donc ça, c'est un instrument qu'on a beaucoup utilisé. Et c'était un peu aussi en hommage, parce que cet instrument a été principalement utilisé par les compositeurs libanais comme Ziad Rahbani, Elias Rahbani, etc., ou Irsan Al-Munzir, dans les formats pop-trad, psych-trad ou funk-trad. C'est un instrument qu'on entend beaucoup sur des albums classiques, notamment d'Irsan Al-Munzir, voilà, sur l'album Disco Belly Dance. Il utilise cette espèce de mélange entre synthétiseur en réponse à des instruments traditionnels de la région du Levant, et notamment le bouzouk. Un instrument qu'on n'avait pas utilisé sur les albums précédents, là, il est utilisé notamment sur le morceau Antelias, qui est directement un hommage aux compositions d'Elias Rahbani.
Antelias, Cochin Moon sur Miniature 1.
Selon le Littré, Jean-François, une miniature, du latin miniare, qui veut dire peindre en rouge, enduire de minium, est une sorte de peinture délicate qui se fait à petits points ou à petits traits, avec des couleurs très fines, détrempées d'eau et de gomme, sans huile. Que dirait-il de leur production et reproduction ?
Nous, c'est pareil, on travaille un peu comme des miniaturistes, entre guillemets, dans le sens où on va utiliser plein de petits éléments épars pour faire nos compositions aussi. Dans notre travail, il y a vraiment ce côté intégré plein d'éléments différents au sein d'une même composition pour donner un résultat qui, je l'espère, est harmonieux et cohérent. Mais l'idée, c'est ce travail du peintre miniaturiste, de travailler par touche, de travailler vraiment en précision, ça pourrait ressembler à ce qu'on essaie de faire en studio, en tout cas.
Et on se quitte avec Jamilé de Cochin Moon. Le disque Miniature 1 est sorti chez Total Totem. Merci Alain, restez avec nous dans un instant. L'info, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.